Le journal Loïc Barrière. Ouverture demain du sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Nous rejoindrons notre envoyé spécial François-Xavier de Calonne. L'Algérie n'étant pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie, elle ne participe pas à ce sommet. Entretien sur la place du français en Algérie avec le journaliste Faisal Metaoui. Dans la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens ont assisté aux funérailles des 21 personnes tuées dans un incendie hier. Le mondial de football commence dimanche au Qatar. 4 pays arabes participent à la compétition. Enfin, la renaissance du concours international Maurice André pour commémorer les 10 ans de la mort du célèbre trompettiste. Pour nous en parler, Ibrahim Malouf, maître d'œuvre de ce projet. Le sommet de la francophonie se déroulera samedi et dimanche à Djerba en Tunisie, en présence de 31 chefs d'État et de gouvernement, notamment le président Emmanuel Macron. Près de 90 pays de l'espace francophone seront représentés. François-Xavier de Calonne, vous êtes sur place à Djerba.
Oui Loïc, le sommet n'est pas encore officiellement ouvert, mais les routes de Djerba résonnent déjà au son des sirènes des voitures officielles, des routes barrées par de nombreux checkpoints. Il faut montrer patte blanche pour accéder aux activités qui se déroulent, notamment au village de la francophonie, un lieu qui accueille les visiteurs depuis le 13 novembre, et cela jusqu'à mardi prochain. 89 délégations ont confirmé leur participation à ce 18e sommet. Samedi et dimanche prochain, 31 chefs d'État et de gouvernement de pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie, 5 secrétaires d'État adjoints, des ministres des Affaires étrangères, des ministres chargés de la francophonie, des ambassadeurs, en plus de 7 secrétaires généraux d'organisations régionales et internationales seront au rendez-vous, comme l'a récemment souligné le coordinateur médiatique du sommet, Mohamed Trabelsi. Parmi les personnalités attendues, le président français Emmanuel Macron, le premier ministre canadien Justin Trudeau. Le thème de cet événement international: la connectivité dans la diversité, le numérique, vecteur de développement et de solidarité dans l'espace francophone. Ce 18e sommet célébrera les 50 ans d'une organisation de 88 membres, dont la Tunisie fut l'un des pays fondateurs. Seule candidate à sa succession, la Rwandaise, Louise Mushikiwabo, est assurée d'être réélue pour un nouveau mandat de 4 ans comme secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, un espace de 321 millions de francophones, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2050.
Merci François-Xavier et nous vous retrouvons tout au long du week-end depuis le sommet de la francophonie. Le regard à présent d'un voisin de la Tunisie sur cette réunion internationale. L'Algérie n'est pas membre de l'Organisation internationale de la francophonie. Entretien avec Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie.
Il y a d'excellentes relations entre l'Algérie et la Tunisie. L'Algérie est un pays où le français est partagé aussi. Il est utilisé dans l'administration, utilisé dans la presse, dans l'enseignement, etc. Mais le pays, maintenant qu'il y a ce sommet de la francophonie, vous l'avez dit, l'Algérie n'est pas membre de l'organisation de la francophonie et elle refuse de l'être. Depuis des années d'ailleurs qu'il y a des réclamations, on considère l'Algérie comme l'un des plus grands pays francophones, entre guillemets, en Afrique et dans le monde, mais l'Algérie considère cette organisation comme une organisation politique. Et donc la langue n'est qu'un prétexte pour l'influence ou pour des orientations politiques, etc. Mais il reste que le français a toujours sa présence en Algérie. Maintenant, il y a une tendance, effectivement, que l'Algérie, par exemple, commence à introduire pour la première fois depuis son indépendance l'anglais au primaire. L'anglais est de plus en plus présent dans les paysages publics, parce qu'il y a même maintenant des printemps dans la capitale algérienne et dans certaines villes où maintenant les printemps sont en arabe et en anglais. L'anglais est utilisé aussi dans l'enseignement. Donc le français reste, comme l'a dit l'écrivain Kateb Yassine, un butin de guerre, mais ce n'est plus la même présence qu'auparavant. Maintenant que la Tunisie organise cet événement, tant mieux pour ce pays qui a beaucoup de difficultés économiques, notamment ces derniers mois. Et aussi, tant mieux que plusieurs pays viennent en Tunisie qui a aussi besoin de relancer son tourisme.
L'Algérie, où le débat linguistique a récemment été ravivé.
Oui, effectivement, puisque vous savez que le débat linguistique concernant les langues a toujours été parfois chargé d'une manière idéologique ou politique, ou parfois chargé avec beaucoup d'anathèmes. d'idées reçues, mais maintenant le débat tente maintenant à s'orienter vers une bonne direction, parce qu'il s'agit maintenant de dire quelle place pour la langue arabe dans le monde de demain. La langue arabe est largement présente en Algérie, notamment dans la presse et dans l'administration, dans l'enseignement, dans les expressions artistiques, à la télévision, toutes les chaînes de télévision en Algérie diffusent en langue arabe. Et également des autres langues, comme l'anglais, parce que les contenus Internet, on se rend compte que c'est des contenus maintenant de plus en plus anglophones. Et aussi, il y a un grand intérêt en Algérie pour les langues asiatiques, notamment les langues turques et les langues chinoises. Parce qu'il y a beaucoup d'investissements turcs et chinois en Algérie, beaucoup de présence d'entreprises, beaucoup d'échanges sur le plan culturel. Et donc le débat linguistique tend maintenant à s'orienter vers l'idée du profit. Qu'est-ce qu'on peut profiter de telle langue et le bénéfice aussi des politiques, philosophiques, culturelles, etc. C'est un débat qui se poursuit d'une manière, mais qui est complètement différente du débat qui existait dans les années 70, où on tentait d'opposer la langue amazigh, qui est une langue aussi partagée par les Algériens, à la langue arabe, ou tenter de poser l'arabe au français.
Et une fausse nouvelle a récemment été diffusée concernant la présence de la langue anglaise sur un billet de banque en Algérie.
Oui, ça fait partie maintenant de l'univers fake news, bien que l'Algérie maintenant veut aussi donner plus de place à l'anglais dans ses documents officiels. Par exemple, le fronton du ministère de la Défense maintenant est en anglais. Le site de la présidence de la République, le site internet, on utilise les termes anglais aussi. Il y a donc une volonté d'aller, c'est une volonté politique réelle, c'est-à-dire d'aller vers cet univers d'anglophone pour plus s'ouvrir sur le monde, parce qu'il s'agit maintenant de s'ouvrir sur le monde. On considère que le français n'est plus capable ou n'est pas du tout suffisant pour parler au monde.
Faisal Metaoui, journaliste à 24 heures Algérie, au micro de François-Xavier de Calonne. À Gaza, des milliers de personnes ont participé aux funérailles des 21 victimes d'un incendie. Le drame a eu lieu hier dans un immeuble de 3 étages. Cela s'est passé dans le camp de réfugiés de Jabalia, dans le nord de l'enclave palestinienne. Au moins 7 enfants figurent parmi les victimes. Selon les autorités de Gaza, du carburant était stocké dans le bâtiment, évoquant une tragédie nationale. Mahmoud Abbas a décrété une journée de deuil national pour les victimes de l'incendie. En Irak, 15 personnes tuées et une dizaine de blessées après l'explosion d'un système de gaz de pétrole liquéfié. Cela s'est passé à Souleymaniyé, dans le Kurdistan irakien. 3 bâtiments ont été détruits. À Sharm el-Cheikh, en ce dernier jour de la COP27, un communiqué commun signé par la France et le Maroc. Les deux pays souhaitent une percée pour le climat dans le secteur du bâtiment. Ils appellent à une large mobilisation. Paris et Rabat rappellent que le bâtiment est responsable de 37% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Plus de la moitié des rescapés de l'Ocean Viking, soit 123 migrants, ont fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français. C'est ce qu'a indiqué le ministère de l'Intérieur une semaine après l'accueil du navire humanitaire à Toulon. Sur les 234 personnes secourues, une 40aine de mineurs isolés ont été prises en charge par l'aide sociale à l'enfance. Les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne se réuniront le 25 novembre à Bruxelles pour discuter de la politique migratoire après la crise franco-italienne sur l'accueil de l'Ocean Viking. Et puis Gérald Darmanin demande au préfet de durcir l'application des obligations à quitter le territoire français. Une disposition, a dit le ministre de l'Intérieur, qui vise l'ensemble des étrangers en situation irrégulière et plus seulement les étrangers délinquants. Après des années d'absence, le concours international de trompette Maurice André revient ce week-end à la scène musicale, un événement organisé par Ibrahim Maalouf pour commémorer les 10 ans de la mort du trompettiste Maurice André. La finale publique du concours a lieu le 27 novembre et un concert hommage à Maurice André avec les lauréats et les membres du jury aura lieu le 28 novembre à 20h à la scène musicale. Pour nous parler de Maurice André, le trompettiste et compositeur Ibrahim Maalouf était l'invité de rencontre cet après-midi, extrait de cette émission.
Maurice André, pour les plus jeunes, c'est un soliste, c'est une vraie star de la musique classique. Pour ceux qui connaissent peut-être Rostropovitch, par exemple, c'est un peu l'équivalent de Rostropovitch pour nous en France. Ce qu'il représente, c'est tellement de choses. Je pourrais parler des heures de Maurice André, parce que c'est à la fois le plus beau son de trompette que j'ai entendu dans ma vie, dans le cadre de la musique classique. C'est quelqu'un qui a su démocratiser, populariser un instrument qui était un peu, on va dire, un peu ringard, parce que c'était un instrument qui était un peu d'un instrument de fanfare ou un instrument militaire, et d'un seul coup, bah, il avait tellement de musicalité qu'on l'écoutait et on était fasciné par la qualité de ce qu'il jouait. C'est quelqu'un qui a voyagé dans le monde entier pour représenter l'école française des cuivres. C'est quelqu'un qui, à titre personnel, a ouvert les portes de l'Europe et de la France à mon père dans les années 60, et qui, quelques années plus tard, 40 ans plus tard, a également fait la même chose avec moi en me mettant en tête du concours qui portait son nom, qui est un des plus grands concours historiquement de trompette classique au monde. Et je tiens à rappeler aussi que ce concert qu'on fait le 28 novembre à la scène musicale, c'est un concert de clôture du concours Maurice André que j'ai eu envie de refaire vivre, voilà, 17 ans après la dernière édition. Ce concours, pendant des décennies, a représenté la plus grande compétition qui réunissait les plus grandes élites de la trompette classique française, mais internationale, c'est-à-dire l'école française à l'international. Donc, c'est quelque chose de très, très important pour le monde de la musique classique. Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, que je lui rends hommage et en refaisant ce concours, où on va accueillir, entre parenthèses, 80 candidats de 20 pays différents. Donc, c'est vraiment... Et puis, il y a tout un jury international. Il y a l'orchestre de la Garde républicaine qui accompagne la finale à la scène musicale qui aura lieu le 27 novembre après-midi. Et donc, le 28, il y a les jurys qui aura participé, ainsi que les trois lauréats qui vont arriver en tête de ce concours, et qui vont faire ce concert en hommage à Maurice André, pour célébrer les 10 ans de sa disparition. Et voilà, et Maurice André est une personne qui compte beaucoup pour tous ceux qui aiment la musique classique et qui devrait continuer à compter, et c'est pour ça qu'on lui rend hommage.
Il faut préciser que la vie de Maurice André est un véritable roman. Vous nous avez raconté dans une précédente émission la vie de votre père qui a finalement fait de la trompette pour la première fois à l'âge de 22 ans. Maurice André était fils de mineur, il a lui-même travaillé à la mine, et c'est grâce à son père, amateur de musique classique, qu'il s'est orienté vers la trompette.
Je pense que la filiation est importante parce que il y a une notion de confiance. C'est-à-dire, quand c'est notre père ou notre mère qui nous apprend quelque chose, on a envie de lui faire confiance à cette personne-là. Alors, c'est vrai que les professeurs extérieurs, le lien de confiance, il va être travaillable, évidemment, mais en beaucoup plus longtemps. Donc, il y a quelque chose d'inné dans la présence d'un parent à nos côtés quand on est en train d'apprendre quelque chose. Il y a des parallèles. Entre mon père et Maurice André, il y avait donc ce parallèle. Les deux ont été mineurs. Maurice André a été mineur de fond pendant 4 ans, pendant sa jeunesse. Mon père, pendant sa jeunesse, a été mineur. Il faisait ce qu'on appelle du charbon de bois, mais c'était des mines d'extérieur, pas des mines de
souterraines.
Ils se sont très vite sentis proches et ils ont tout de suite senti qu'ils avaient beaucoup de choses à partager. Et puis, Maurice André était quelqu'un d'extrêmement humain. Il avait un cœur extraordinaire. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec ses enfants et c'est pareil, les enfants sont des gens formidables qui, d'ailleurs, je dois leur rendre hommage parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire ce concours et ce concert en hommage. C'est eux qui m'ont donné l'autorisation de faire tout ça. Et il avait beaucoup de curiosité pour tout ce qui venait d'ailleurs. Quand on l'écoute jouer du jazz, par exemple, il n'était pas complètement adapté, c'était pas son langage, mais il était ouvert à ça, il avait les cœurs ouverts. Quand il voit débarquer un trompettiste libanais qui joue pas encore super super bien, mais qui a très envie, il se dit pas « qu'est-ce qu'il fait ici, lui, il a qu'à rentrer dans son pays ou je ne sais quoi ». Il se dit « tiens, on va donner sa chance à ce jeune, il a l'air d'en vouloir, il a l'air de vouloir travailler ». Il lui a ouvert ses portes de cette manière-là. C'était quelqu'un qui était très curieux de tout ce qui se faisait tout autour, alors que souvent dans la musique classique, il y a quelque chose de très conservateur. Et c'est pas par hasard. La trompette est un instrument de pauvres.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là ?
Les cuivres, en général, sont des instruments de pauvres. C'est des instruments qui ne valent pas cher à la base. Un clairon, une trompette, c'est pas comme un violon, un Stradivarius, qui peut coûter des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros. Un piano à queue, un violoncelle, sont des instruments très très chers. Même des flûtes traversières sont des instruments qui peuvent coûter 40, 50 000 euros. Même la meilleure trompette va coûter 3, 4 000 euros. Relativement, c'est pas cher, je veux dire. Et une trompette d'étude, ça coûte 500 euros, 800 euros. Donc, vous voyez, par rapport à un piano d'étude, il va coûter 20 000 ou 10 000. Il y a vraiment ce décalage social dans cet instrument, dans les cuivres en général, et surtout la trompette, par rapport à tout le reste de la musique. Ce qui fait que souvent, les gens qui jouent de cet instrument sont des gens qui viennent vraiment de la rue, qui sont des gens, des ouvriers, des enfants d'ouvriers, etc. La trompette est rarement adoptée par des gens de la haute société ou de la noblesse.
Le trompettiste et compositeur Ibrahim Malouf, il est l'invité de Rencontre samedi à 20h et dimanche à 15h. Le mondial de football commence au Qatar dimanche. Le monde arabe est représenté par 4 équipes, à savoir le Qatar, pays hôte, le Maroc, l'Arabie Saoudite et la Tunisie. La Coupe du Monde se déroulera du 20 novembre au 18 décembre sur 8 stades différents. La cérémonie d'ouverture aura lieu ce dimanche après-midi. Et en ce 18 novembre, c'est le 100e anniversaire de la mort de Marcel Proust. Il est décédé chez lui à Paris à l'âge de 51 ans, le 18 novembre 1922. Et à cette occasion, de nombreux livres célèbrent l'auteur d'À la recherche du temps perdu. Les éditions Plomb publient ainsi une sélection de sa correspondance sur plus de 1300 pages. À 19h et 23h, l'invité de Pluriel est Maxime Da Silva, représentant de la France insoumise en Normandie. Cette édition est terminée. Samedi et dimanche, vous retrouverez notre envoyé spécial à Djerba, François-Xavier de Calonne, pour des journaux consacrés au sommet de la francophonie. Excellent week-end.